Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 7 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. En dépit des émeutes au Congrès américain, hier mercredi, les parlementaires ont débattu de l'ultime tentative d'élus pro-Trump pour contester les résultats de l'élection présidentielle, une démarche menée par une dizaine de sénateurs républicains qui a peu de chances donc d'aboutir. La maire de Washington, la démocrate Muriel Bowser, a ordonné mercredi l'imposition d'un couvre-feu dans l'ensemble de la capitale fédérale à partir de 18h. Des soldats de la garde nationale, des agents du FBI et les services secrets américains ont été déployés pour aider la police du Capitole débordée par les événements. Cela dit, la femme morte mercredi au Congrès, après avoir participé au coup de force dans l'enceinte du Capitole, a été abattue par la police. Elle a annoncé le chef de la police de Washington, ardente partisane du président Donald Trump. Elle s'appelait Ashley Babbitt et vivait dans la région de San Diego, dans le sud de la Californie, ont rapporté des médias américains. Elle faisait partie d'un groupe de manifestants qui ont sémé le chaos dans le Capitole, alors que les élus entamaient la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Les camps rivaux libyens ont procédé à un échange de 35 prisonniers conformément à l'accord de cessez-le-feu signé en octobre, a annoncé mercredi soir la mission des Nations Unies en Libye, la MANUL. L'échange s'est déroulé dans la ville de Chouarif et a été facilité par une commission militaire conjointe composée de 5 membres de chacun des deux camps rivaux, a dit l'ONU. Un premier échange de prisonniers avait déjà eu lieu à la fin du mois de décembre. Un haut gradé de l'armée éthiopienne, le général Bele Seyoum, a confirmé que des troupes de l'Érythrée voisine étaient entrées dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, au cours de l'opération militaire lancée par Addis Abeba contre les autorités régionales. Dans une vidéo donné par l'AFP, l'enregistrement date de fin décembre, mais a émergé sur les réseaux sociaux mercredi. Le chef du commandement nord de l'armée éthiopienne y échange avec des habitants de Mekele, la capitale de la région du Tigré, sur des sujets divers tels que la situation sécuritaire ou la restauration des services publics. Au Cameroun, 4 militaires et une civile ont péri mercredi dans l'explosion d'une bombe au passage d'un convoi officiel dans une des régions anglophones du pays en proie à une insurrection séparatiste, a annoncé le gouvernement qui accuse les rebelles d'avoir commis l'attentat. Le convoi du préfet du département de la Momo dans la région du Nord-Ouest est tombé dans une embuscade tendue par des terroristes sécessionnistes. 4 éléments des forces de défense nationale ont été tués, ainsi qu'une déléguée départementale de la communication, a indiqué le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, dans un communiqué ajoutant que le préfet est sorti indemne de l'attentat. Le journaliste Moussa Aksa, visé par une plainte pour diffamation au Niger après une enquête journalistique sur une épineuse affaire de malversation financière au ministère de la Défense, est cité à comparaître selon un groupe de journalistes d'investigation, la cellule Norbert Zongo Senozo. L'affaire des surfacturations a fait grand bruit au Niger après la diffusion sur les réseaux sociaux d'extraits d'un rapport d'audit sur ces irrégularités selon lesquelles elles ont causé un manque à gagner de plus de 76 milliards de francs CFA pour l'État nigérien entre 2017 et 2019. Le Soudan a signé mercredi un accord de normalisation avec Israël et a obtenu donc simultanément une aide financière des États-Unis quelques semaines après le retrait de Khartoum de la liste américaine des États accusés de financer le terrorisme. Lors d'une visite inédite à Khartoum, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a conclu un accord donnant accès au Soudan à plus $1 milliard pour l'aider à rembourser sa dette envers la Banque mondiale. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, les démocrates obtiennent désormais la majorité au Sénat après des victoires en Géorgie au sénatorial. Et le processus de certification s'est finalement poursuivi au Congrès américain, alors que des partisans de Donald Trump ont fait irruption dans le bâtiment dans la journée pour faire inverser la défaite du président sortant, compte rendu des violences et réactions dans un instant. Jean-Roger Billon à ce micro, nous sommes le jeudi 7 janvier 2021, nous émettons de Washington et on revient dans seulement un instant.
La suite de nos informations ce jeudi 7 janvier 2021, c'est une journée noire qui restera à jamais dans les annales de l'histoire américaine. Des milliers de manifestants mécontents ont envahi hier après-midi le Capitole pour protester contre la certification de l'élection à la Maison-Blanche de Joe Biden. Des incidents qui ont perturbé et interrompu momentanément les travaux des deux chambres en session. Le récit des faits avec Bagasikou.
Des images surréelles de l'intérieur du majestueux bâtiment situé au cœur de la capitale fédérale américaine, élus portant des masques à gaz, des agents de la police en civil, armes au poing. Des milliers de manifestants ont pris d'assaut les bâtiments du Parlement peu après la fin d'un discours de Donald Trump sur le Mall, non loin du Capitole. Le président sortant avait alors appelé ses partisans à aller protester contre la certification par les élus du Congrès de la victoire de son opposant démocrate ayant lieu au même moment dans l'enceinte du Capitole. Rapidement débordée, la police a ordonné l'évacuation de plusieurs bâtiments du Congrès. Des coups de feu ont été entendus, une femme est atteinte et dans la soirée vers 20h locale, on apprend qu'elle a succombé à ses blessures. Après plusieurs heures d'extrême tension, plusieurs polices de la région et des militaires de la garde nationale ont été envoyés pour rétablir le calme. Un couvre-feu de 18h à 6h est entré en vigueur dans Washington, mais aussi à Arlington et Alexandria, deux villes de la Virginie voisine. Dans la soirée, les forces de l'ordre en grand renfort ont pu sécuriser le Capitole et le Congrès, qui avait suspendu ses travaux, a pu les reprendre. Écoutez Mitch McConnell, le président républicain du Sénat.
United States and the United States Congress have faced down much greater threats.
Les États-Unis et le Congrès des États-Unis ont été confrontés à des menaces bien plus grandes que la foule dérangée que nous avons vue aujourd'hui. Nous n'avons jamais été dissuadés auparavant et ne le serons pas aujourd'hui. Ils ont essayé de perturber notre démocratie. Ils ont échoué. Ils ont échoué dans leur tentative d'entraver le Congrès. Cette insurrection ratée ne fait que souligner à quel point notre tâche est cruciale pour notre République. Notre nation a été fondée précisément de sorte que le libre choix du peuple américain est ce qui façonne notre gouvernement autonome et détermine le destin de notre nation, pas la peur, pas la force, mais l'expression pacifique de la volonté populaire.
Lors d'une allocution au ton grave, Joe Biden, qui s'installera à la Maison-Blanche le 20 janvier, a dénoncé une attaque, je cite, « sans précédent contre la démocratie américaine ». Il a appelé Donald Trump à s'exprimer immédiatement à la télévision pour réclamer la fin du siège du Capitole et de cette insurrection. En guise d'allocution solennelle, le président américain, désormais très isolé au sein de son propre parti, s'est contenté de quelques tweets et d'une brève vidéo dans laquelle il a demandé à ses partisans de se tenir à l'écart de la violence et de rentrer chez eux. Facebook, Twitter, YouTube ont retiré la vidéo de ce discours du président Trump de leur plateforme. Twitter a même suspendu le compte du président américain pour 12 heures.
L'assaut des partisans du président Donald Trump contre le Capitole a été dénoncé par plusieurs personnalités ici aux États-Unis, d'anciens présidents comme Bill Clinton et George Bush, à des dirigeants de grandes compagnies américaines. Les événements à Washington ont aussi suscité des réactions sur le plan international. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint ici à Washington le politologue René Lick.
Depuis 1812, plus de 200 ans que le Capitole a été envahi par des agents extérieurs. C'est sûr que j'ai été surpris, comme beaucoup d'observateurs et même comme beaucoup d'acteurs, y compris les principaux concernés qui étaient en session au Congrès pour certifier la victoire de Joe Biden. Donc c'est une journée particulièrement difficile pour tous, qui en plus de ça se termine avec une femme qui a été tuée, qui a d'abord été blessée. Donc franchement, c'est une journée historique, inoubliable, mais pour toutes les mauvaises raisons du monde.
Vous pensez que les autorités, que ce soit au niveau de la capitale DC ou les autorités fédérales, n'avaient pas pris la mesure de ce qui pourrait se passer? On avait l'impression à un moment qu'il n'y avait pas assez de forces de sécurité.
Tout à fait, c'est quand même assez surprenant parce que déjà depuis hier, donc la veille, la maire de Washington DC avait dit qu'elle avait fait appel à la garde pour renforcer la police municipale. Or, il semblerait que ces forces-là n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Elles n'ont été mobilisées que très tard en fin de journée. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème de coordination? Est-ce que sa demande n'avait pas été acceptée parce qu'elle devait passer par une autorisation fédérale, puisqu'on est ici dans la capitale fédérale des États-Unis? Également, au niveau de la police du Congrès elle-même, qui semble avoir été complètement dépassée et qui ne semblait pas avoir pris les dispositions habituelles dans une telle situation. D'autant plus que, comme vous le savez, Abdou Arman, les manifestants avaient déjà annoncé bien à l'avance qu'ils viendraient. La preuve, la plupart des commerces s'étaient barricadés et tout, se sont préparés tous ces derniers jours, mais il semblerait que les forces de l'ordre, elles, n'étaient pas prêtes.
Alors, sur le plan international, on a vu beaucoup de réactions du Canada à la Turquie même. La Turquie qui appelle à la retenue ici. Comment est-ce que vous analysez cet angle international? Comment le reste du monde voit tout ça?
Écoutez, je comprends la stupeur hein, qu'il y a à l'échelle internationale. Moi-même, je reçois des malheurs de tous les coins de la planète, Asie, Australie, Europe, Afrique, n'en parlons pas. De partout, je reçois à la fois des messages de gens qui sont surpris, qui se demandent « mais qu'est-ce qui se passe? Comment l'Amérique en est arrivée là ?» C'est vrai que c'est étonnant. Mais vous savez, Abdou Arman, je dois la vérité de vous dire que à presque tous, je réponds, écoutez, c'est des moments difficiles, mais une chose est sûre, et c'est là la différence. Les gens aussi plaisantent un peu, disant, mais écoutez, l'Amérique est devenue une république bananière. Vous avez vu que l'ancien président George Bush lui-même a dit que ce type d'événement, c'est ce qui arrive dans les républiques bananières. Mais vous savez, la grande, grande différence entre l'Amérique, malgré les difficultés qu'elle traverse, et les républiques bananières, c'est qu'aujourd'hui, à 2 semaines de l'investiture de Joe Biden, on sait que dans 2 semaines, Joe Biden sera investi comme président de la République à midi. Juste après la cérémonie, il ira occuper la Maison-Blanche. Ça, c'est une certitude.
L'analyste politique René Lake, joint à Washington. Cet accès de violence au Capitole à Washington est survenu au jour même où les républicains de Donald Trump ont perdu leur majorité au Sénat du fait de défaites lors d'élections en Géorgie. Dans 2 scrutins très serrés, le candidat démocrate Raphaël Warnock s'est imposé face à l'élue républicaine sortante Kelly Loeffler, tandis que l'autre démocrate John Ossoff est sorti vainqueur face au républicain David Perdue. À nouveau, Bakasikoura.
Les électeurs en Géorgie ont donné le contrôle du Sénat américain aux démocrates hier mercredi. La sénatrice républicaine Kelly Loeffler a perdu face à son adversaire démocrate, le révérend Raphaël Warnock, faisant de lui le premier sénateur noir de l'histoire de Géorgie. Dans l'autre second tour du Sénat, le challenger démocrate John Ossoff a battu le sénateur républicain David Perdue. Il y a eu un taux de participation sans précédent pour ce second tour de scrutin, dû en grande partie à des années d'efforts de la part des démocrates pour amener ce bastion traditionnellement républicain de leur côté. Le président élu Joe Biden sera le premier président en plus de 10 ans à avoir le contrôle démocratique de la Chambre et du Sénat. Il travaillera avec le nouveau chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, sur une gamme de priorités au cours des 2 premières années de son mandat. Et dans la foulée, le président élu, Joe Biden, a choisi le juge Merrick Garland, âgé de 68 ans, pour diriger l'influent ministère américain de la justice. Selon plusieurs médias, Merrick Garland avait été le candidat de Barack Obama à la Cour suprême en 2016, mais sa nomination avait été bloquée par les républicains qui avaient fait valoir l'élection présidentielle approchant.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaît les clubs qualifiés pour les différentes phases de groupe des Coupes africaines. Les dernières rencontres retour du deuxième tour préliminaire ont eu lieu hier. En Ligue des champions, les Young Buffaloes de l'Iswatini n'ont pas fait le poids devant l'AS Vita Club de Kinshasa, qui les a éliminés 4-1 pour se qualifier pour la phase de poule. L'autre club congolais, le tout-puissant Mazembe, a fait le boulot à Lubumbashi face au Gabonais de Bouenguidi, battu 2-1. Les Gabonais le reconnaissent, ils sont tombés sur plus fort qu'eux.
On a croisé Mazembe dans ses beaux jours et on a joué le match à fond. On s'est battu avec nos armes et malheureusement on a perdu. Je dirais oui, Mazembe mérite sa victoire vu qu'ils ont, apporté un peu plus de mouvement dans le jeu. Voilà. Et nous, ça n'a pas suivi et du coup, on a encaissé ces deux buts trop tôt qui nous ont coûté cher. Chapeau à eux et bonne continuation.
Junior Bayana, attaquant de Bouenguidi, au micro de Lucien Kaouzi Kocha, notre correspondant Swahili à Lubumbashi. Courte victoire 2-1 des Nigériens d'Enyimba face à El Merrek du Soudan, mais suffisant pour voir la phase de groupe. Ça passe pour le Oroya AC de la Guinée qui a battu le Racing Club d'Abidjan 1-0, tout comme pour le Wydad de Casablanca qui a disposé du stade malien de Bamako 3-0, idem pour le Petro Atlético de Luanda, vainqueur d'un Kana de la Zambie 1-0. Le CR Belouizdad d'Algérie s'est qualifié en battant Gor Mahia du Kenya 1-2. Ça passe aussi pour l'Espérance de Tunis, vainqueur 3-2 d'Alali de Benghazi, tout comme pour le MC Alger, malgré sa défaite 1-0 devant le CS Sfaxien de Tunisie. Simba de la Tanzanie s'en sort aussi devant Platinum du Zimbabwe, écrasé 4-0. En coupe, CAF Jaraf du Sénégal s'est qualifié en venant à bout de San Pedro de Côte d'Ivoire 2-1. Esaïe du Bénin est out malgré son match nul 1-1 arraché à Casablanca face au TAS. L'AS Kigali s'est aussi qualifié pour la phase de poule en dépit de sa défaite en Ouganda 3-1 face à Kampala City. Napsa Stars de la Zambie s'en tire aussi à bon compte malgré le nul 1-1 face à l'US Songo du Mozambique, tout comme Monastir de la Tunisie qui a fait 1-1 face à Al Ahly de Tripoli. Victoire 2-1 et qualification pour l'étoile du Sahel devant Arab Contractor de l'Égypte. C'est aussi bon pour le champion en titre Berkane du Maroc qui a battu Tevrat Zena de la Mauritanie 2-0, tout comme Salitas du Burkina Faso qui a sorti Alamal Atbara du Soudan grâce à sa victoire 2-0. Ici aux États-Unis, les joueurs de la NBA, LeBron James en tête, et le club de Milwaukee ont déploré l'absence de poursuites judiciaires contre les policiers qui ont grièvement blessé l'Africain-Américain Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin, le 23 août. Jacob Blake, 29 ans, a reçu plusieurs balles dans le dos sous les yeux de ses trois fils alors qu'il tentait de prendre place dans une voiture. Affectés, les joueurs des Bucks, club de Milwaukee, situé près de Kenosha, ont initié deux jours plus tard un mouvement de boycott de match embrayé par d'autres équipes de baseball, football, ainsi que par la star du tennis Naomi Osaka.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Le Sénégal renforce les restrictions pour faire face au Covid-19. Le président Macky Sall a décrété un nouvel état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel de 21h à 5h du matin dans les régions de Dakar et Thiès qui concentrent la majorité des cas de coronavirus. Ces mesures ont pris effet hier mercredi. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seguina Abagay.
Je suis étudiante à l'ISEC. En fait, le couvre-feu, il y a un an.
On parle de couvre-feu, mais je pense qu'il y a pire. Les rassemblements, les cérémonies, les marchés sont bondés de monde. De mon point de vue, il faut prendre des mesures pour régler ces choses beaucoup plus graves. D'autant plus que le président Macky Sall avait déjà pris ses devants. Mais aujourd'hui, c'est le laisser-aller total. Sincèrement, la nuit, tout le monde reste chez soi. Donc, encore une fois, je ne vois pas l'utilité de décréter un couvre-feu. Par contre, il faut respecter les mesures d'hygiène et les gestes barrières. Beaucoup de Sénégalais pensent que le virus n'existe pas. Le président Macky Sall doit orienter sa communication sur ça. Je pense que c'est
mieux. Mohamed, commerçant, couvre-feu,
Le couvre-feu n'est pas une meilleure stratégie pour lutter contre la pandémie. Le commandement est individuel. Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ceux qui travaillent jusqu'à 21h ou 20h30 et qui habitent loin, ces personnes vont faire comment? Pour les quincailleries, nous avons une heure fixe de fermeture, 21h30. Les clients le savent bien, donc le couvre-feu sera un manque à gagner. Regardez, en ce moment, le marché est bondé. Donc le couvre-feu n'est pas une bonne chose et cela crée une tension entre les populations et les forces de l'ordre. On a vu ce qui s'est passé lors du premier couvre-feu. Est-ce bien?
Radio GFR FM,
j'ai
ressenti une peur bleue, un couvre-feu en ce moment avec la conjoncture. Nous les gagnons peu. On va faire comment pour subvenir à nos besoins? J'habite la banlieue, je serai obligé de rentrer tôt alors que mon business marche le soir. Le président Macky doit revoir les horaires du couvre-feu, 22h ou 23h jusqu'à 6h du matin. Je sais qu'il veut nous protéger du virus, mais il doit penser aux personnes démunies qui se battent comme des diables pour vivre. Il doit revoir cette mesure.
Présent, limou def mais non xolal nak.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Au Togo, l'Assemblée nationale a voté le 29 décembre dernier un nouveau code du travail en remplacement de l'ancien, vieux de 14 ans. Le nouveau texte salué par les syndicalistes met un accent particulier sur la protection sociale. La correspondante de VOA Afrique à Lomé, Kayla Osson, nous en dit plus.
Le code du travail de 2006 dans son application a démontré un certain nombre d'insuffisances et de faiblesses. Ainsi, les autorités togolaises ont jugé utile de procéder à une amélioration de l'environnement de travail en conformité avec les réformes socio-économiques engagées dans le pays. Le nouveau code du travail voté il y a quelques jours par les parlementaires fait de l'emploi décent une priorité. Gilbert Bahara, ministre togolais de la fonction publique du travail et de la réforme administrative.
La réforme du code du travail vise à favoriser la création d'emplois décents pour les populations togolaises. Il y a un souci légitime de la part des travailleurs de voir les conditions de travail, de voir les mesures de sécurité et de protection sociale être améliorées et renforcées. Un travailleur bien rémunéré, c'est un travailleur beaucoup plus productif.
Les syndicalistes se disent soulagés. Ephraim Tikplonou, porte-parole de la coordination des centrales syndicales du Togo.
Ouf, parce que nous avons longtemps attendu ce moment. Beaucoup de choses sont devenues caduques dans l'ancien code qui vient d'être remplacé et il fallait de nouveaux tests afin de bénéficier des tests plus adapté à la période dans laquelle nous sommes actuellement.
En matière de protection sociale, le Togo n'est pas un bon élève. À part l'administration publique, dans beaucoup d'entreprises dans le privé, l'assurance maladie est presque inexistante et les travailleurs ne sont pas déclarés à la caisse de sécurité sociale. Pour les quelques rares employés qui sont déclarés, leurs cotisations ne sont pas payées. Des manquements qui seront désormais sanctionnés, prévient le ministre Gilbert Bawara.
Les dispositions pénales du nouveau code du travail sanctionnent la non-déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale et la non-diligence à l'obligation de souscription d'une assurance maladie en faveur des travailleurs, avec des risques de pénalité.
Dès sa promulgation par le président de la République, le nouveau code du travail entrera en vigueur. Concernant l'obligation de souscription à l'assurance maladie, les entreprises du secteur privé disposeront d'un moratoire d'un an pour s'y conformer. Pour ce qui est de la revalorisation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est de 35 000 francs CFA depuis 2012, les discussions continuent entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Cameroun, la région de l'extrême nord, exposée aux exactions des djihadistes depuis 2014, va bénéficier des plans de reconstruction et de développement. Cette annonce fait suite à un plaidoyer des parlementaires et groupes de pression de cette partie du pays. Ceux-ci dénoncent le fait que le programme économique pour la période 2021-2023 n'intègre pas la reconstruction de la région. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julintap.
Après avoir instruit le Premier ministre le 27 août 2020 à mettre en place un programme spécial pour la reconstruction de la région de l'extrême nord, le président Paul Biya a fait mention des orientations budgétaires dont va bénéficier cette région lors du discours de fin d'année le 31 décembre.
C'est ainsi qu'il a été décidé de poursuivre la mise en œuvre des plans de reconstruction et de développement de l'extrême nord.
La reconstruction de la région de l'extrême nord a été l'une des recommandations du Grand Dialogue National tenu en 2019. Les populations locales saluent à sa juste valeur ce programme de reconstruction comme à Moura, dans le département du Mayo-Sava, l'un des trois départements concernés par le conflit contre Boko Haram.
On a besoin des routes, diminution des taux de chômage.
La priorité serait d'abord qu'on reconstruise des maisons pour des personnes déplacées qui souffrent franchement avec cette difficulté. Si on le fait, je crois que ça ira pour le mieux.
Il faut d'abord repenser les plaies des communautés et des populations victimes à travers des appuis psychosociaux.
Et l'affaire de Boko Haram nous a beaucoup mis dans la panique. Il y a eu beaucoup de déplacés. Dans chaque maison où il y avait 4, 5, 6 personnes, on se retrouvait à 30, 40. La situation des jeunes n'est pas encore résolue.
Les recettes ont connu une baisse drastique dans au moins 6 importants postes douaniers de la région de l'extrême nord. Le tourisme, le transport interrégional ou encore les échanges commerciaux avec le Nigeria voisin, ont tous été affectés. Sénéboukar Lamine, l'amido de Kolofata, une localité frontalière au Nigeria dans l'extrême nord.
Cette région repose beaucoup sur les échanges commerciaux avec les pays voisins, mais c'est également une région qui est productrice en levage et que les routes pourraient aider au désenclavement des bassins versants, dont la production doit être nettement améliorée.
Plus de 320 000 personnes ont abandonné leur village, 40 000 habitations, 128 établissements scolaires, 30 centres de santé et plus de 200 forages ont été détruits depuis 2014. Depuis 2018, le conflit a graduellement baissé en intensité. Cette phase d'accalmie est favorable pour le développement. Midiawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord.
Il est question de capitaliser les acquis, savoir la stabilité que nous avons connue grâce à nos forces et aux éléments de comité de vigilance. C'est davantage pour permettre aux populations de dormir tranquillement.
D'après un rapport du gouvernement, les incursions de Boko Haram ont engrangé au Cameroun depuis 2014 des pertes estimées à plus de 240 milliards de francs CFA, soit 430 millions de dollars. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Disappearing about a mile or so down the county road. Homeboy.
Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.